Bonjour à tous. Elle mène au Yémen une guerre qui tue de nombreux civils et plusieurs de ses hauts responsables sont impliqués dans l'assassinat de Jamal Khashoggi. Mais pour reprendre la main, l'Arabie Saoudite a élaboré une redoutable machine de communication. Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer en quoi elle consiste cette machine et en quoi la France est concernée. Et puis nous recevrons Timothée de Roglaudre. Bonjour.
Bonjour.
Avec Jean-Louis Adenor, vous publiez-vous Dieu est amour. Vous avez infiltré des groupes religieux qui considèrent l'homosexualité comme une déviance et qui organisent des espèces de thérapies de guérison.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Nous avons avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis un partenariat de confiance dans la région qui n'est pas commercial, qui est stratégique. Parce que la stabilité de la région nous importe, parce que la lutte contre le terrorisme se fait aussi avec ces États.
Voilà, ça c'était Emmanuel Macron s'exprimant sur les relations que la France entretient avec l'Arabie Saoudite. Le chef de l'État rappelle que Riyad est un partenaire incontournable de la France. Maintenant, en quoi consiste ce partenariat auquel il fait allusion et quels sont nos intérêts là-bas? Eh bien, on va se poser cette question pour commencer, Philippe Reltien. Alors dites-nous, quand on parle de partenariat stratégique, on parle de quoi?
Eh bien, il faut rappeler que l'Arabie Saoudite est au cœur de la fameuse coalition contre Daesh. Nous avons aussi une base militaire avec des rafales aux Émirats Arabes Unis et nous formons les forces spéciales saoudiennes. Si vous ajoutez à cela les ventes d'armes, puisque les Saoudiens nous en ont acheté ou nous ont aidé à en vendre plus récemment, en prêtant par exemple de l'argent à l'Égypte, eh bien vous comprenez pourquoi nous avons des liens étroits avec ce pays.
Ouais, mais on va voir qu'il n'y a pas que dans le secteur de la défense que nous avons des intérêts, Philippe. On le sait peu par exemple, mais en ce moment les Saoudiens nous font miroiter un marché de plus, tenez-vous bien, de 50 milliards de dollars. Et un marché qui, effectivement, n'a strictement rien de militaire.
En effet, ça, c'est un projet culturel qui consiste à mettre en valeur un méga site touristique autour des nécropoles pré-islamiques mises au jour dans le nord-ouest désertique de l'Arabie. C'est un site de 22 000 km², grand comme la Belgique, qui s'appelle Al-Ula et qui rappelle en bien plus grand celui de Petra en Jordanie.
Ah, et ce site majestueux, on veut en faire un site touristique.
Oui, l'objectif c'est d'attirer 2 millions de visiteurs par an. Mais pour cela, il faudra bien sûr aménager les lieux et donc construire des hôtels, des musées, des piscines et bien d'autres choses.
Et c'est là que la France intervient.
Oui, le Royaume a retenu Havas Conseil pour assurer la promotion du projet et pour le piloter. Une équipe française a été mise en place rue de Courcelles à Paris. Cette équipe, elle est présidée par Gérard Mestralet, l'ancien PDG d'Engie, qui nous a expliqué comment les choses se présentaient.
Un premier projet a vu le jour autour d'un territoire qui s'appelle Shiran. Un concours d'architectes a été lancé, une quinzaine d'architectes ont fait des projets, puis 5 ont été sélectionnés et un jury a recommandé le choix du projet de Jean Nouvel. Donc Jean Nouvel, effectivement, va réaliser sur place un projet assez extraordinaire d'un hôtel construit intégralement à l'intérieur de la roche, à l'intérieur de la montagne.
Ouais, quand on disait Petra en Arabie, c'est effectivement un peu ça, mais version 2020.
Disons plutôt 2030, car il faudra du temps. Autour des hôtels, on pense en effet aussi créer une réserve naturelle avec des espèces disparues à réintroduire, comme le léopard d'Arabie. Et c'est parce qu'il est gigantesque que le projet a fait l'objet d'un accord signé à l'Elysée en 2018, comme l'explique Eddy Bellassine, analyste et spécialiste de la région.
L'accord qui a été passé, c'est un accord donc d'État à État, dans lequel finalement l'État français s'engage à développer ce site archéologique, construire des routes, peut-être même des autoroutes, des moyens de transport, des aéroports.
Amener l'eau, l'électricité,
amener
l'eau, le gaz.
L'électricité, et construire sans doute plusieurs hôtels, préserver le site archéologique. Pour signer un tel accord, ça veut dire que les relations franco-saoudiennes sont tout à fait excellentes, remarquables, privilégiées.
Oui, parce que les intérêts financiers derrière ce projet, ils sont énormes.
Eh bien oui, avec de grands groupes en embuscade, Accor et Thales qui ont remporté les premiers appels d'offres, et des agences de communication, bien sûr, qui ont commencé à attirer des élites culturelles françaises là-bas. Vincent Cassel, Renaud Capuçon ou David Guetta s'y sont rendus. La France est donc en première ligne et elle en attend des retombées, explique encore Eddy Bellassine.
les Saoudiens s'engagent à financer absolument tout. Donc c'est une sorte d'exclusivité qu'accorde l'Arabie Saoudite à la France. Donc oui, en gros, l'Arabie Saoudite dit on s'apprête à développer une région, ça va coûter entre 50 et 100 milliards, c'est vous qui allez le faire et dites-nous comment faire et on va payer.
Et comment on va faire alors ?
Eh bien, on va piloter le chantier depuis Paris. Mais l'idée, c'est aussi d'utiliser du matériel local et de former des Saoudiens pour favoriser l'emploi local. C'est pour cela qu'on a fait venir un premier groupe de stagiaires du Golfe au château de Versailles, aux frais du royaume. Et ça devrait se poursuivre, selon Gérard Mestrallet.
Les matériaux de base de construction existent. Tous ces matériaux vont être utilisés pour construire les hôtels, les bâtiments, les résidences, les musées. D'où l'idée d'essayer de favoriser le développement d'une filière locale d'exploitation, de carrière, pour que ces matériaux, l'exploitation de ces matériaux, profite à l'économie locale au lieu d'être importé d'autres zones d'Arabie Saoudite, voire même de pays étrangers. On pourrait importer du marbre de Carrare. Si on arrive à le produire sur place, ça serait beaucoup mieux.
Ouais, alors ça, c'est pour la construction qu'on va donc superviser. Mais d'autres entreprises ou institutions espèrent aussi en tirer parti.
Oui, pour vous donner une idée, rien que pour une exposition qui a lieu en ce moment à l'Institut du Monde Arabe sur ce thème, c'est 1 million d'euros. L'installation de l'antenne de pilotage rue de Courcelles, c'est 20 millions. Mais à cela s'ajoutent des retombées pour les agences de communication. Et ça n'est pas rien, remarque notre confrère de Challenge, Antoine Isambard.
Publicis, l'agence d'Elisabeth Badinter, a gagné plusieurs gros contrats ces dernières années grâce à l'Arabie Saoudite, notamment un contrat de 800 000 euros qui était un contrat de relations presse en 2016 et 2017. Et actuellement, on voit que Publicis gère également la communication de l'agence française pour le développement d'Alula. C'est un gros contrat et il y a des déplacements quasiment tous les week-ends sur un site d'Alula qu'on appelle Winter à Tantora, qui invite tous les week-ends, durant 3 jours, des officiels, des businessmen, des gens d'influence français, étrangers, pour vanter et faire un petit peu le soft power, la diplomatie d'Alula, qui est censée donner une image plus convenable de l'Arabie Saoudite.
Ouais, donc la machine semble bien huilée. Sauf que, Philippe, le contexte s'est tout de même un peu assombri ces derniers temps.
Mais vous voyez, on parlait au départ de plus de 50 milliards de dollars pour l'aménagement d'Alula. Or, maintenant, on ne parle plus que de 10 milliards pour les Français.
Et pourquoi cette baisse ?
Eh bien, parce que, naturellement, on doit internationaliser les appels d'offres. C'est-à-dire que l'enveloppe globale sera finalement à diviser avec d'autres pays.
On va se partager le gâteau. Sauf que cet argent, là aussi, Philippe, même partagé ce gâteau, pour l'instant, les Saoudiens ne l'ont pas.
En effet, parce que le 14 septembre dernier, une attaque de drones et de missiles a fait partir en fumée 2 usines de l'Aramco, la compagnie nationale des pétroles saoudiens.
Mais quel rapport avec Alula ?
Eh bien, le prince héritier avait l'intention de financer ses grands projets grâce à l'introduction en bourse de 5% de la Compagnie nationale des pétroles. Or, on a dû repousser le projet. Et comme les cours du pétrole varient beaucoup, Bruno Delamotte, expert du cabinet LBC Consulting, s'inquiète de la faisabilité du projet.
Le sujet a été travaillé, les consultants sont intervenus à une époque où le baril était à 110-120 $. Ce qui dégageait des marges colossales pour l'Arabie et permettait de financer un projet que l'on peut qualifier de pharaonique. Avec un baril à 60 $, vous n'avez plus les moyens de financer vos projets. Le prince l'a dit il y a quelques jours dans une interview à NBC, il a besoin des quelques dizaines de milliards que représenterait l'introduction en bourse de 5% d'Aramco pour assurer le démarrage de ses projets. Et il dit lui-même, si je n'ai pas ça, ça prendra peut-être 40 ans ou 50 ans de plus.
Ah oui, 50 ans de plus, là ça change beaucoup de choses.
Oui, en effet. Alors, pas un jour ne passe sans que le royaume cherche à rassurer. Il annonce qu'il versera des dividendes énormes aux futurs acquéreurs d'actions Aramco. Mais on voit tout de même naître des doutes aujourd'hui sur la faisabilité d'un tel projet. Attention aux effets d'annonce, avertit Olivier Dallage, journaliste spécialiste de l'Arabie Saoudite à RFI.
Alors je pense que c'est un projet qui est plus qu'ambitieux, il est irréaliste. C'est-à-dire que les 2 millions de touristes ne seront pas au rendez-vous, je peux me tromper mais je ne crois pas. Oui, il y aura des touristes, ça c'est certain. Je pense qu'on aura de grands hôtels qui resteront assez largement vides. C'est pas la première fois que les pays du Golfe, et je pense à l'Arabie Saoudite notamment, construisent ce qu'on appelle en anglais des éléphants blancs, c'est-à-dire des projets gigantesques, mais qui sont complètement surdimensionnés par rapport à la réalité.
Ouais, ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les Saoudiens font miroiter des contrats qui ne se concrétisent pas.
Non, on a connu ça avec les Rafales par exemple. Et lorsqu'on évoque la question avec les spécialistes de la région, ils expriment souvent le même scepticisme. Écoutez par exemple ce qu'en dit Georges Malbruno, journaliste spécialiste du Proche-Orient au Figaro.
L'histoire, elle est peuplée de promesses qui n'ont pas été tenues. Hein. La dernière en date, c'était quand même une pseudo-promesse faite par le roi Salman à la France d'investir 50 milliards de dollars dans l'économie française, parce que la France avait été, du temps de François Hollande, à la pointe du combat contre un Iran nucléaire. Et donc voilà, et ces 50 milliards de dollars, eh bien, à Bercy, on les attend toujours, et a fortiori au Quai d'Orsay. Donc, il faut pas être dupe, il y a les effets d'annonce. Et puis derrière, il y a la réalité. La réalité est souvent plus décevante.
Oui, parmi les autres réalités décevantes, on peut encore citer l'affaire des centrales nucléaires.
Oui, alors là aussi, les Saoudiens ont laissé entendre qu'ils pourraient acheter à la France 16 centrales nucléaires. Mais on sait déjà que le projet sera revu à la baisse, comme l'affirme l'expert Bruno Delamotte.
Il n'y aura pas, comme ce fut annoncé à un moment, 16 centrales en Arabie. Il y en aura peut-être 4 ou 6 à terme. Les licences technologiques utilisées par les Français, les Canadiens, les Japonais, les Coréens reposent sur un savoir-faire américain, Westinghouse pour l'essentiel, qui impose que les Américains, le Congrès, donne un accord. Tant qu'il n'y a pas cet accord, il ne peut pas y avoir d'exportation de matériel nucléaire vers l'Arabie à des fins civiles. Est-ce que la Chine sera prête demain à leur livrer le savoir-faire ? C'est l'autre aspect du problème.
Maintenant, si les projets nucléaires devaient ne pas se concrétiser, la France aurait toujours une autre carte à jouer avec Veolia, puisque le Royaume lui a commandé plusieurs usines de désalinisation de l'eau de mer.
L'eau qui est une ressource vitale dans cette région désertique. Maintenant, la France, et ça on le sait moins, Philippe, a aussi des intérêts importants dans l'agroalimentaire.
Et ça peut surprendre, mais l'agroalimentaire français en Arabie Saoudite rapporte plus que les ventes d'armes aujourd'hui. Dans ce pays aride, on importe de la nourriture à grande échelle, nous dit Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse et président du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite.
Ils ont pris les décisions d'arrêter la culture de céréales en 2016, ils ont arrêté la culture de luzerne en 2018, et donc ils importent une grande partie de leur alimentation, notamment les moutons, les ovins, mais aussi des productions végétales, des productions animales, du bœuf halal, et, entre autres, soit en carcasse, soit en transformé, en haché ou des choses comme ça. Pour le coup, c'est des sociétés françaises, la plupart qui exportent, c'est Bigard, c'est d'autres sociétés qui sont des sociétés françaises. Il n'y a pas pour le moment d'investissement encore de l'Arabie Saoudite, même si c'est dans sa stratégie 2030, pour justement détenir des sociétés qui permettent d'importer des produits.
Ouais, donc leur idée à terme, ce serait de contrôler des sociétés françaises qui assureraient ensuite leur alimentation. Maintenant, si on vous écoute, Philippe, nos rapports vont donc bien au-delà de la vente d'armes ou du pétrole.
Absolument, mais le pétrole reste tout de même en toile de fond. Ce n'est pas un marché énorme pour la France, qui en achète peu à l'Arabie Saoudite, mais deux raisons font qu'on ne peut s'en passer. La première, c'est que Total est en train d'agrandir sa raffinerie là-bas. Et la deuxième, c'est que les sanctions américaines ont fortement restreint les endroits où l'on peut encore s'approvisionner. C'est ce que fait remarquer Ludovic Leroy, qui forme là-bas des techniciens du pétrole.
On est dépendant, je dirais même qu'on est même prisonnier d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous travaillez dans le pétrole, ça commence à faire quand même pas mal de clients qui sont sous sanctions américaines, donc avec lesquels vous ne pouvez plus travailler. Je pense à l'Iran, je pense au Venezuela. Donc forcément, cette activité qu'on a plus là, il faut qu'on aille la chercher ailleurs. Et c'est vrai que l'Arabie Saoudite aujourd'hui, alors je vais pas vous dire que c'est un Eldorado, mais pas loin, du fait de cette saoudisation de l'activité.
Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu pourquoi la France maintient des liens étroits avec l'Arabie Saoudite, voyons, Philippe Reltien, comment le pays travaille à corriger son image, parce que c'est vrai, hein, on l'a dit, l'actualité de ces derniers mois l'a sérieusement ternie.
Plutôt, et pour cela, Riyad a mis sur pied une redoutable machine de communication qui passe d'abord par des éléments de langage. Sur CBS, la télévision américaine, le 29 septembre, le prince Mohammed bin Salman, MBS en abrégé, a fait acte de contrition. En évoquant l'affaire Khashoggi, il a dit « J'assume l'erreur du crime d'Istanbul que je n'ai pas ordonné ». Je vous laisse juge de la formule, mais ça montre bien qu'il maîtrise les fondamentaux de la communication, explique Stéphane Lacroix, professeur à Sciences Po et chercheur au Centre de Recherche Internationale, le CERI.
Les Saoudiens, et MBS est un fanat de com. MBS adore ça, il est de cette génération, il a 30 ans, il est un peu à l'image de nos jeunes publicitaires qui ont compris que un bon spot publicitaire avec la bonne formule, ça pouvait vous vendre un produit, et donc lui, il vend son pays comme un produit.
Et comment on fait pour vendre son pays comme un produit ?
Eh bien, on utilise tous les moyens d'influence qu'on a à sa disposition, et le premier, c'est Twitter. À en croire Quentin de Pimodan, expert arabisant longtemps installé dans le Golfe, la monarchie saoudienne s'appuie sur un réseau très bien organisé pour sa propagande.
Ils ont déployé tout un système d'influence à travers ce qu'on appelle des trolls, des bots sur les réseaux sociaux, particulièrement Twitter, parce que les Saoudiens sont très férus de Twitter. On dit que certains analystes disent que c'est le Parlement saoudien. Et à partir de là, ils ont essayé de mettre une image de MBS au centre de tout. C'est lui qui régule tout, c'est lui qui décide tout et c'est lui qui fait tout.
C'est lui qui fait tout. Cela dit, ce réseau, il ne fait pas que vanter les mérites du royaume.
Non, c'est aussi une arme qui sert à étouffer toute critique. Écoutez à nouveau Ludovic Leroy. Il a mis en doute sur Twitter la parole officielle saoudienne quand Riyad a annoncé un retour à la normale sous 15 jours après les attaques de drones du 14 septembre visant les installations pétrolières. Et voilà ce qui s'est passé.
Je me retrouve avec une nuée de personnes qui s'abonnent à mon compte Twitter et qui me menacent. On me souhaite de la peine de mort en fait parce que les gens ont compris que je me rends régulièrement en Arabie Saoudite et me promettent de me faire arrêter et d'être condamné à mort.
C'est une sorte d'intimidation.
Ah, clairement, c'est de l'intimidation.
Mais vous savez pas d'où ça vient.
C'est des comptes, voilà, un peu anonymes. Non, il n'y a pas de. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même une certaine simultanéité dans ces attaques et dans l'arrêt de ces attaques.
Ouais, alors ça c'est pour le côté obscur de la communication saoudienne. Maintenant, ce que recherche surtout le prince aujourd'hui, Philippe, c'est à faire rayonner l'image du royaume.
Oui, et pour cela, quoi de mieux que d'éblouir l'Occident ? Son voisin, l'émir d'Abu Dhabi, a bien un Louvre, alors l'Arabie Saoudite s'est peut-être dit qu'elle pourrait au moins avoir sa Joconde à elle. Et selon la presse américaine, c'est pour ça que le prince Salman aurait fait acheter par un de ses proches aux enchères chez Christie's la toile la plus chère du monde qu'on appelle le Salvator Mundi. Un chef-d'œuvre de Léonard de Vinci payé 450 millions de dollars. Et il l'aurait fait en toute confiance puisque la toile avait été authentifiée par la National Gallery de Londres en 2011.
Mais pourquoi vous dites « en toute confiance » ?
Eh bien parce que le grand expert en la matière qui travaille notamment pour le Louvre, Jacques Franck, lui affirme que cette toile n'est pas de la main de Léonard de Vinci, mais de celle d'un de ses élèves. Il y a donc doute, débat, et ça c'est dur à accepter pour les Saoudiens.
La possession d'une œuvre d'art de premier ordre, et même exceptionnelle, c'est évidemment tout le prestige d'un État. C'est une image, je dirais, une espèce d'archétype de la culture dont l'État ne peut que bénéficier, comme la Joconde, c'est évident.
Donc pour les Saoudiens, ce Salvator Mundi, ils espéraient peut-être que ce soit leur Joconde.
Que c'était la Joconde du Golfe. Il y aurait un frère à la Joconde. Le fait de posséder un véritable Léonard de Vinci, c'était un prestige absolu. C'était quasiment le mythe, l'Eldorado, et c'était totalement inespéré. Et malheureusement, ça retombe à plat.
Ça retombe à plat. Maintenant, le pays a d'autres cartes en main.
Oui, Riyad mise désormais sur l'organisation d'événements qui font venir du monde et qui font parler du royaume. C'est ce que souligne Pierre Conessa, ex-diplomate et auteur du best-seller « Dr Saoud et Mr Jihad ».
Plutôt que de vendre le produit Arabie Saoudite, on vend des actions thématiques. Donc vous avez effectivement le Salvador Mundi. Vous avez un certain nombre d'actions comme organiser pour la première fois une foire du livre à Riyad. Il vaut mieux qu'on parle de l'Arabie Saoudite sur des actions thématiques que, encore une fois, d'essayer de vendre le produit saoudien.
Et quand on parle d'action thématique, Philippe, on parle de quoi ?
Eh bien, par exemple, du rallye Dakar. Le groupe Amaury l'a délocalisé en Arabie Saoudite pour le mois de janvier qui vient. Et voilà, typiquement pour le journaliste Olivier Dallage, de RFI, le type de manifestation sportive qui garantit la promotion du pays.
Parler aux gens, ce sera impossible. Regarder la vitrine, c'est possible et il n'y a pas de raison de penser que la vitrine n'est pas très belle dans les endroits qui ont été réservés aux touristes, comme ailleurs dans cette région, on pense à Petra en Jordanie. Mais encore une fois, il faut savoir que l'Arabie Saoudite met ça, je dirais, sur le marché, pas simplement pour des raisons économiques, mais pour se donner une bonne image.
Ouais, pour se donner une bonne image, on a d'autres options aussi.
Oui, on veille aussi à s'entourer de cautions morales, qu'elles soient politiques, économiques ou culturelles. Des grands noms qui ne sont pas là pour faire la propagande du régime à proprement parler, mais qui contribuent à donner au royaume un brevet de respectabilité. C'est ce que remarque encore Pierre Conessa.
On va chercher des personnalités parisiennes. C'est par exemple Attali, le conseiller économique de Mohamed Ben Salman. Bon, vous avez effectivement le projet à Loula, c'est-à-dire ce site nabatéen dans lequel les Saoudiens disent vouloir développer le tourisme. On s'adresse à Jean Nouvel. Et puis on demande à Mestralet d'être le pilote. C'est aussi une manière de s'acheter, si vous voulez, un carnet de relations. Donc vous avez un certain nombre de ces personnalités parisiennes, non pas comme propagandistes, mais disons comme collaborateurs positifs.
Des collaborateurs positifs, pour paraphraser Pierre Conessa. Les Saoudiens en cherchent aussi parmi les parlementaires.
Oui, alors là, c'est encore plus subtil. On est dans ce qu'on appelle l'influence douce, le soft power. Et effectivement, le pays invite souvent des parlementaires français pour leur faire passer aussi des messages. Et c'est ce qu'a constaté Fabien Gouttefard, un député La République En Marche. À l'occasion d'un de ses voyages, il a pu visiter le centre de commandement militaire à Riyad. Et voilà comment on lui a présenté les opérations conduites au Yémen.
Ce qu'ils nous ont expliqué, c'est-à-dire les green box, les red box, c'est-à-dire en gros, les zones qui soi-disant sont sauvegardées, sanctuarisées, les green box, on ne peut pas frapper, donc les hôpitaux, les écoles, etc. Tout ça nous a été montré sur un écran. Et le problème, c'est que tout ça, quelques mois après, était contredit par des frappes sur des bus, notamment, ou des bus scolaires.
Ouais, donc il y a un décalage entre le discours et la réalité. Mais ce député, il a été surpris par une autre pratique des Saoudiens.
Oui, quelques mois après son retour, on lui propose de participer à un sondage par téléphone, de consacrer quelques minutes à dire ce qu'il pense de l'Arabie. Mais quand vous et moi sommes sondés à domicile pour rien, eh bien là, on lui propose une petite récompense de 80 euros pour le faire. C'est pas grand-chose, mais ce n'est pas neutre non plus, explique encore le député.
Ce phoning nous a été préannoncé par mail. Et en fait, on nous a envoyé un mail en nous disant qu'on avait la possibilité de répondre à un questionnaire par téléphone, auquel je n'ai pas donné suite. Donc, j'ai juste lu le mail. Je n'ai pas donc fait cet échange téléphonique, encore moins effectivement rémunéré. Moi, ça m'a choqué. On sent que ce sont des personnes qui connaissent bien le règlement intérieur et la charte d'état autologie parce que c'est moins de 150. Donc voilà, ce n'est pas la place d'élu que d'être rémunéré pour répondre à un sondage.
Oui, je précise que 150 euros, c'est effectivement la somme au-delà de laquelle on doit déclarer son cadeau à la déontologue de l'Assemblée nationale. Bon, cela dit, si on se résume, Philippe, on se rend compte que d'un côté, les Saoudiens cherchent à lisser leur image, et on a vu comment, mais de l'autre, les Français ont tout intérêt à ce que ça se passe bien. Chacun, finalement, y trouve son compte.
C'est effectivement le constat qu'on peut faire. Personne n'a intérêt à rompre. Et pour l'islamologue Stéphane Lacroix, quels que soient les différends, on n'est donc pas prêt d'assister à un divorce entre les deux pays.
Vous avez toute cette coopération qui va se faire officiellement sur le sécuritaire ou le militaire. Vous avez tous ces réseaux économiques entre les deux pays qui impliquent des hommes d'affaires qui travaillent les uns avec les autres depuis longtemps et qui en retirent des bénéfices des deux côtés.
Le pétrole, le tourisme.
Le pétrole. Aujourd'hui, tout ce qui s'ajoute avec la vision 2030, le tourisme, l'Oula, etc. Et donc, on est effectivement imbriqué à différents niveaux. Ce qui explique, à mon avis, pourquoi chaque fois qu'on essaye de prendre un peu de distance avec l'Arabie Saoudite, on est toujours ramené vers l'Arabie Saoudite parce qu'il y a tout ça.
On est ramené ou on y va ?
Oui, on y va. Bah oui, on est ramené, je veux dire, on y va aussi, parce que ce serait trop coûteux de s'en éloigner.
D'où la position actuelle de la France, qui fait attention de ne pas froisser l'Arabie Saoudite dans un contexte plutôt tendu, où l'on cherche aussi à ne pas perdre le contact avec le grand rival, l'Iran. Bref, à tenir tant qu'on peut les deux bouts de la pelote.
Ouais, ce qui est loin d'être simple, effectivement, dans cette région du globe. Merci Philippe Reltien pour cette enquête. Alors je précise qu'on peut la réécouter, qu'on peut la lire, qu'on peut la podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France, ou encore sur Twitter Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous dans quelques instants. Nous allons recevoir un journaliste qui a réussi à infiltrer des groupes religieux qui prétendent guérir l'homosexualité. Quand le boss s'agit et nous propose une balade dans l'Ouest américain, c'était Sundown, extrait du dernier album de Bruce Springsteen qui s'appelle Western Stars.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Timothée de Roglaudre, bonjour.
Bonjour.
Avec Jean-Louis Adenor, vous publiez Dieu est amour, c'est une enquête sur ces groupes religieux qui considèrent l'homosexualité comme une maladie et qui organisent en France, hein, chez nous, des séances qui s'apparentent à des séances de guérison. Alors c'est une pratique assez secrète qui est inspirée, on va le voir, des États-Unis, mais qui avance quand on vous lit, c'est ce qu'on comprend, à visage masqué en quelque sorte, parce que on parle jamais d'homosexualité, on parle pas de maladie d'ailleurs, on parle de problème d'identité, on tourne autour mais on ne dit pas les choses.
Oui exactement, ça c'est la difficulté qu'on a eue au début de notre enquête, parce qu'il y avait ces deux groupes qui sont soupçonnés de pratiquer des thérapies de guérison, Torrent de Vie, un groupe évangélique, et Courage qui est catholique. Mais dans leur discours de communication sur leur site internet, le discours est complètement masqué. Donc on va parler d'identité sexuelle, voilà.
Édulcoré.
On va parler de guérison des blessures profondes, donc on va rester très flou. Mais nous, on savait par ailleurs que dans les maisons mères américaines, puisque c'est des pratiques importées des États-Unis, le discours est beaucoup plus assumé. On va vraiment parler de guérison de l'homosexualité. Donc pour nous, la seule solution de prouver que ce qui se passait à l'intérieur, c'était bien des thérapies de guérison, c'était de les infiltrer.
Oui, le mot qui est utilisé, c'est thérapie de conversion.
Voilà, alors nous on a un petit problème avec...
Ça résonne religieux aussi, hein, on se convertit.
Ouais, nous on a un petit problème avec cette expression, donc qu'on a préféré ne pas retenir, parce qu'à l'origine elle désigne plutôt tout ce qui est électrochoc, castration chimique, etc. Vraiment des pratiques de torture qui est utilisées par la psychiatrie et la médecine aux États-Unis. Et aujourd'hui ce qui domine dans les pays occidentaux, c'est beaucoup plus un mélange de pseudo-psychologie et de spirituel. Donc pour nous, le terme thérapie de guérison rend beaucoup mieux compte de cet aspect psychospirituel.
Dans des groupes qui s'apparentent un peu aux alcooliques anonymes, il y a un peu de ça. Hein. Voilà qui je suis, voilà quel est mon problème, on vous écoute.
Oui, il y a justement un des groupes sur lesquels on a enquêté qui s'appelle Courage, qui est directement inspiré des alcooliques anonymes. Donc le prêtre qu'il a fondé en 1980 à New York, c'est explicitement calqués sur les alcooliques anonymes, ils s'installent en cercle et puis ils vont dire « Bonjour, je m'appelle Guilhem », c'est le nom que Jean-Louis a pris pour l'infiltration. « Je m'appelle Guilhem et je suis attiré par les personnes de même sexe ».
Alors on va en parler courage dans un instant parce que ça pose aussi la question des établissements scolaires. Hein. Mais je voudrais qu'on démarre par Torrent de Vie, qui est ce premier groupe dont vous nous avez parlé. On va aller à Lux, près de Chalon-sur-Saône, parce que bah, vous êtes infiltré. Guilhem, hein, comme vous le disiez, s'est infiltré. Alors là, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe parce que vous y allez plusieurs fois.
Alors, ça se passe dans un camp de une sorte de camp de vacances un petit peu. Donc Jean-Loup raconte qu'il a un petit peu l'impression d'être en colo. Il dort dans une tente dans un grand parc. Il y a une centaine de participants. Et en fait, la routine, c'est que tous les jours, on va aller écouter des enseignements sur les qualités intrinsèques de l'homme et de la femme, les abus sexuels, tout un tas de choses où il va y avoir un mélange de témoignages, de références bibliques et de références pseudo-psychologiques. Et il va à côté de ça, il va y avoir des groupes de parole dans lesquels les participants vont raconter un petit peu les traumatismes familiaux qu'ils ont pu avoir, les abus sexuels dans l'enfance, etc. Comme autant de choses qui expliqueraient, selon Torrent de Vie, l'origine de l'homosexualité. Torrent de Vie propose vraiment comme horizon l'hétérosexualité et donc va présenter des espèces de success stories de participants qui sont là depuis des années et qui vont dire, voilà, grâce à Torrent de Vie, grâce à l'action de Dieu, j'ai réussi à devenir hétérosexuel, à être restauré. Et j'ai une femme, des enfants, etc. Et quand on gratte un petit peu, c'est pas aussi successful que ça, on va dire.
Alors on disait tout à l'heure, on tourne un peu autour du pot, on ne dit pas vraiment les choses. En même temps, vous expliquez que pour Torrent de Vie, une relation homosexuelle, je cite, ce serait une offrande à un dieu cananéen. Là, faut expliquer.
Voilà, donc quand Jean-Louis arrive au début de la semaine à Lux, donc à côté de Chalon-sur-Saône, il perçoit une espèce de bienveillance, de volonté d'accueillir les homosexuels. Et au fur et à mesure des jours, il se rend compte que l'homosexualité n'est pas seulement vue comme une déviance psychospirituelle, mais aussi comme l'œuvre du démon. Donc il se retrouve notamment dans cette prière de renonciation, où une femme, après avoir parlé de sa relation toxique et malsaine avec une autre femme, va demander aux participants de prier pour se débarrasser de deux démons, Baal et Astarté, donc qui sont des démons de
chasser Satan.
Voilà, des démons du peuple cananéen et qui sont considérés comme les démons de la perversion sexuelle. Donc c'est là que Jean-Loup se rend compte que ça peut être extrêmement violent parce qu'on assimile directement l'homosexualité à une œuvre démoniaque. Et plus tard dans la semaine, il va également entendre un cri très fort dans le parc de ce centre chrétien. Donc il apprendra que c'est un exorcisme.
Alors, en fait, on parle de Lux, mais Torrent de Vie est présent à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes et à Paris, et à Belleville également, vous êtes resté un certain temps.
Bah, en fait, après la semaine à Lux, il y a une espèce de continuité du parcours. C'est un parcours sur le long terme, c'est quelque chose qui peut prendre des années. Donc Jean-Loup s'est inscrit au groupe de parole. Donc c'est un groupe de parole hebdomadaire. Tous les lundis soirs, il se retrouve dans une petite salle du temple de Belleville. Et là, il se passe quelque chose d'assez intéressant dans l'enceinte du temple de Belleville. C'est que à la fin de son mois d'infiltration, Jean-Loup va voir le pasteur et il essaye de le confronter à la possibilité qui puisse établir une relation avec un autre homme. Donc il lui dit, j'ai rencontré un garçon en soirée, je sens qu'on se plaît, je sais pas trop quoi faire. Et là le pasteur lui répond extrêmement clairement, tu n'es pas homosexuel, on n'est pas homosexuel, notre vraie identité, donc sous-entendu l'hétérosexualité, Dieu peut nous la faire découvrir et nous pouvons être restaurés. Donc là il lui dit clairement que l'option de pouvoir être heureux, épanoui en tant qu'homosexuel n'est absolument pas une option.
Alors on en arrive à Courage, qu'on évoquait tout à l'heure, hein, et là je parlais des établissements scolaires. Bah, Courage est implanté effectivement dans des établissements scolaires, et notamment dans un collège Stanislas du 6e arrondissement de Paris.
Voilà, c'est ça, donc établissement catholique très prestigieux. Et ce qu'on a découvert, c'est que pendant deux années de suite, le congrès mission, donc qui est un rassemblement de chrétiens et qui a lieu en partie dans l'enceinte du collège Stanislas, a invité le père Louis-Marie Guiton, le cofondateur de Courage France, pour expliquer toute sa théorie de l'homosexualité comme déviance psychospirituelle et de l'abstinence sexuelle comme seul chemin chrétien envisageable. Et ce qu'on a découvert par ailleurs, c'est que la personne qui était aumônier de Stanislas, jusqu'à très récemment, était en parallèle aumônier du groupe Courage. Donc Jean-Loup le croise en infiltration et lui dit tu sais Guilhem, nous on aimerait bien développer un groupe pour les jeunes, en fait un groupe de thérapie de guérison à destination des jeunes, puis un public beaucoup plus fragile.
Alors il y avait un texte hein, interdisant ce type de thérapie qui était en préparation, enfin qui devait être d'ailleurs présenté à l'Assemblée, toujours pas.
Alors, ça a pris beaucoup de temps parce que les pouvoirs publics ont mis du temps à être convaincus que ces pratiques existaient réellement en France. Et donc, la députée elle-même, députée En Marche, qui a travaillé dessus, a mis beaucoup de temps à trouver des témoignages. Mais là, elle vient d'ouvrir en septembre une mission d'information. Et son objectif est de présenter une proposition de loi au printemps 2020. Donc, les choses commencent quand même à bouger, mais les pouvoirs publics commencent à peine à se rendre compte que ce phénomène existe bien chez nous.
Et votre livre va sans doute y contribuer. Merci Timothée de Roglaudre. Alors
merci.
Je rappelle donc que ce livre s'intitule Dieu est amour et je précise qu'il est édité chez Flammarion. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert, avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Louis Audebert et Florent Beauvallet. Dans quelques instants, Emmanuel Queyrade recevra le philosophe Raphaël Enthoven dans sa librairie francophone. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.